Говорит Москва.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Et bien, nous voici pour l'avant-dernier podcast de l'année. Et pour l'occasion, et bien, je reçois Chloé Fabry. Chloé est venue il y a trop longtemps, il y a 3 ans et demi. C'était le 13 février 2021. Elle est venue à l'époque, nous ne faisions pas encore de podcast. C'était donc une interview écrite. Vous aurez le lien dans l'article qui accompagne ce podcast. Pourquoi Chloé Frambry? Eh bien parce que Chloé a une actualité un peu chargée. C'est l'occasion pour nous de parler donc de son actualité, ses déconvenues judiciaires, ses difficultés. J'ai appris, après avoir enregistré le podcast, que la cagnotte qui avait été ouverte pour Chloé, donc pour faire face à ses dépenses judiciaires exorbitantes compte tenu de son absence de revenus, eh bien cette cagnotte avait été fermée par le fournisseur. Comme quoi, le harcèlement continue. Et moi, je suis toujours du côté des gens courageux qui sont harcelés, même si nos divergences avec Chloé sont connues. Voilà, je me tiens à ses côtés autant que faire se peut. Je sais que ce que je fais est extrêmement modeste, peut-être un peu inutile, peut-être en tout cas assez dérisoire, mais je donne ce que je peux et je vous invite, vous aussi, à soutenir Chloé, qui, contrairement à beaucoup de donneurs de leçons de notre bord, elle a beaucoup plus donné que ce qu'elle a reçu. C'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle n'a pas hésité à remettre une situation confortable en jeu pour des choses qui lui paraissaient plus importantes que tout, à savoir tout simplement la vie, le respect de la vie humaine, le respect de l'intégrité de l'homme. Je crois que je ne trahis pas ici sa démarche. Alors moi, eh bien, je me suis contenté de lui poser quelques questions, mais c'est quelqu'un qui s'est déroulé. Alors écoutez, je vais pas bavarder plus longtemps et je vous retrouve tout de suite. Eh bien bonjour. Alors comme je vous l'ai annoncé, je suis ce soir avec Chloé Frambry. Chloé est déjà venue et déjà nous a déjà accordé un entretien sur le blog. Bonsoir Chloé.
Bonsoir Jacques.
Quel plaisir de t'avoir.
Mais quel plaisir réciproque. Je suis ravie d'être de nouveau avec toi, ça fait un moment là.
Ça fait trop longtemps hein.
Trop longtemps.
Ouais. Alors, Chloé, on connaît tous tes états de service. Hein. Pour moi, c'est tout. Tu es quelqu'un qui est. Pour moi, c'est vraiment un honneur parce que les états de service, tu as quand même de très très belles décorations. Je parle
bien
pas
malgré moi. Bien malgré moi.
Je sais que tu es l'une des bêtes noires de Tristan Mendès français, Rudy Reinstadt, qui ont leur ronde serviette ici. Je sais que tu collectionnes beaucoup de décorations, la quenelle d'or et autres, qui t'ont valu bien des ennuis. Mais tu es en tout cas quelqu'un qui ne lésine pas sur les moyens et qui n'a pas hésité à sacrifier ton confort, ta vie. Tant que tu avais une vie bien tracée de fonctionnaire dans le canton de Genève, où tu étais, donc je rappelle hein, que tu enseignais les mathématiques et tu étais très apprécié parce que j'ai lu les témoignages, tu étais très apprécié de tes élèves. Eh
oui.
Bien, tu n'as pas hésité à sacrifier tout ça pour ta conscience. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est que bon, je sais que tu as eu des ennuis judiciaires, ou plutôt des déconvenues judiciaires plus que des ennuis,
Oui, plutôt des déconvenues,
des
effectivement, parce que
plutôt
c'est
des
moi qui ai
voilà.
initié ces plaintes.
Exactement. Donc tu vas nous expliquer un petit peu donc ce qui s'est passé. Tu as porté plainte donc contre Heidi News, c'est ça?
Entre autres, ouais.
Entre autres.
Je vais vous expliquer tout ça,
Et
ouais.
tu vas nous expliquer tout ça. Alors je t'écoute et je te laisse la parole.
Alors, pour rebondir sur ce que tu disais au début, merci à toi, merci pour tes éloges. Donc, j'ai reçu des médailles, on peut dire. Quelqu'un m'a dit cet après-midi que ce sont mes médailles, toutes ces sanctions, tous ces ennuis, bien malgré moi, parce que je n'avais pas postulé dans ce rôle de bête noire des médias et de l'État et de toutes ces officines qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous et ce qui connaissent la vérité, leur vérité en tout cas, qui nous assènent, qui est contraire au bon sens. Et effectivement, j'ai encore récemment reçu l'un de ces trophées, si on peut les appeler comme ça, avec ce jugement. Ce jugement suite à un procès qui a eu lieu le 1er octobre, qui faisait suite à l'une de mes nombreuses plaintes en diffamation, parce que les médias ne tarissent pas d'insultes à mon égard et le font depuis 4 ans, abreuvent les tabloïds de toutes les insultes qu'ils ont en tête pour salir Chloé Frammery et ne se contentent pas d'avoir permis de me licencier et de faire en sorte qu'aujourd'hui je n'ai plus de revenus depuis le mois de juillet, depuis 5 mois, mais continue à me taper dessus, à me jeter des anathèmes, à m'assimiler à tous les pires vices et défauts qu'ils peuvent imaginer concernant l'être humain, sur la base de mensonges et de manipulations, comme ils savent le faire. Et donc, j'ai décidé de ne pas me laisser faire, comme pour le reste. Et j'ai cru naïvement qu'en portant plainte en diffamation contre ces gens qui me traitent de fasciste, de extrême droite, de complotiste, d'antisémite et autres violentes, antidémocratiques ou antiscientifiques, quand ce n'est pas d'autres, je dirais, d'autres anathèmes concernant des insultes en dessous de la ceinture, ça c'est Vigous, c'est Laurent Flutsch qui aime bien me traiter de blondasse et de cerveau en déliquescence. Eh bien, je me suis dit, la justice, notre bonne vieille justice suisse, va me permettre de rétablir un équilibre entre les mensonges qui sont dits à mon égard et la vérité. Eh bien, que nenni, puisque depuis 2020, que j'ai porté plainte de nombreuses fois, toutes les plaintes ont été balayées par le ministère public dans un premier temps. Donc, il y a eu des plaintes contre ID News, contre le Temps, contre Vigous, contre des médias français aussi, Libre Info 74, 74, une dizaine de médias. Alors, je n'ai pas
Vigous,
porté
qu'est-ce que
plainte
c'est?
systématiquement. C'est l'équivalent, qu'est-ce qu'on peut dire, de Charlie Hebdo en France.
D'accord,
C'est
ok.
un média vaudois
C'est un média vaudois, d'accord, je connaissais
qui me caricature. Donc, c'est un média papier
pas.
qui me caricature avec des espèces de dessins et des anathèmes et des insultes. La dernière fois, c'était Laurent Flutsch regrettait que je frétille encore et que je ne sois pas fossilisée dans ma fange de fake news, ou je ne sais plus
Ah ouais,
exactement
c'est
comment on appelle
violent, ouais.
ça. Ah non, c'est très très violent. Âme sensible, s'abstenir. Non, il faut avoir quand même une sacrée force quand même pour résister moralement et psychologiquement à tout ça, hein. Et donc, alléluia, en 2023, un arrêt de la Cour de justice genevoise me signifie qu'enfin l'un de mes recours contre les non-entrées en matière successives du ministère public aboutit. C'est-à-dire que j'ai systématiquement fait recours contre toutes les plaintes recalées par le procureur général. Et ma plainte contre ID News a été retoquée par la Cour de justice, ce qui m'a permis de continuer le procès et ce qui a obligé le ministère public à instruire et à continuer les enquêtes
Excuse-moi.
sur ce sujet.
Excuse-moi, non, pas retoquée, justement. Elle a été
Au
acceptée.
début,
Enfin,
non?
ah, au début, elle
Oui, mais
était retoquée. Oui,
ce que
j'ai
j'appelle
compris.
retoquée,
Pardon.
c'est-à-dire que au départ, elle était balayée par le
D'accord.
ministère public et nous avons fait recours et donc elle a été
D'accord.
réhabilitée et donc le ministère public a été obligé de continuer le processus d'instruction. Et ça nous amène, donc cette plainte, elle date de 2021, de décembre 21, sur la base d'articles qui émanent de Grégoire Barbet et de Serge Michel. Donc Grégoire Barbet, c'est un journaliste qui est aujourd'hui au Temps, donc le journal Le Temps, qui est maintenant la maison mère de Heidi News. Et Serge Michel, c'est le fondateur et rédac chef de Heidi News, le média, rappelle-toi, qui nous avait infiltrés, qui m'avait infiltré
Alors, justement, je voulais en dire
en
un
juin,
mot.
juillet, août 2020.
Voilà, je voulais justement en dire un mot, si tu me permets, et pardon de
Bien sûr.
t'interrompre. C'est ce que moi j'appelle les médias voyous, c'est-à-dire que la technique, et je le dis ici parce que je me suis abonné à l'époque à Heidi News pour pouvoir justement lire ce qui avait été écrit, enfin le reportage te concernant. Donc ils ont, on le rappelle brièvement, ils ont infiltré un
Allons-y.
journaliste qui n'était pas donc qui ne s'est pas présenté comme journaliste, qui est
Effectivement.
et qui pendant plusieurs semaines
Moi, plusieurs mois même.
plusieurs mois même est resté à vos côtés pour
Exactement.
et ensuite et au tout dernier moment, tu as découvert qu'en réalité il avait trahi et qu'il s'apprêtait à
C'est
publier
ça.
un papier. Ça, ce sont des
C'est
manières
ça.
de faire de voyous, ce sont des
Oui.
manières de faire de bandits, ce sont des manières de faire de sales types. Et très franchement, alors là, je suis absolument prêt à aller devant un tribunal si nécessaire, parce que je trouve que ces gens-là sont des sales types. Pourquoi? Parce que ça ne devrait pas être permis dans la mesure où, moi, je suis désolé, je n'ai pas le droit d'enregistrer les conversations, par exemple, de mes interlocuteurs, sans le leur dire, et surtout de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Je trouve que ce sont des manières malhonnêtes, alors que toi, si cette personne s'était présentée comme journaliste, tu l'aurais bien entendu reçu, puisque
Comme je
tu
l'ai
l'as.
fait avec les autres, effectivement.
En tout cas, moi, je n'ai jamais eu la moindre difficulté à, dès que j'ai sollicité un entretien, dans les heures qui ont suivi, tu as toujours été d'accord. Donc,
Oui.
tu reçois, absolument qui te le demande. Voilà. Donc ça, c'est.
Absolument. Alors depuis, il y a quand même eu quelques précautions que j'ai prises. Maintenant, je
Bah oui,
demande
bien
que
obligé.
ces journalistes, après 4 ans de calomnie et à peu près 300, 350, 400 articles contre moi qui m'insultent, effectivement, je demande qu'on signe une déclaration de non-diffamation, ce qui manifestement est contraire au code de déontologie des gens de Heidi News. C'est ce qu'on m'a rétorqué pendant le procès, par exemple. C'est Grégoire Barbet qui a dit ça. Effectivement, des méthodes de voyous, par contre, ces gens-là n'hésitent pas à me montrer du doigt et à me brûler au bûcher de leur calomnie. Lorsque j'enregistre pour me protéger une conseillère au chômage, sans la citer, sans rien dire de mal contre elle, sans qu'il n'y ait le moindre préjudice à son encontre, de 5 minutes, et cet enregistrement, par contre, m'a valu une condamnation de plusieurs milliers de francs suisses avec sursis parce que j'ai fait appel. Et évidemment, des articles dans le journal qui le rappellent à chaque fois qu'ils évoquent mon nom, comme si j'avais presque tué quelqu'un. Alors que l'infiltration de Sami Zaibi pour Heidi News en me mentant et en prétendant être un journaliste déçu des mainstreams pendant 2 mois, en ayant pris quelqu'un qui a pris nos images, qui a pris nos noms, qui a pris nos informations, qui a déformé les informations qu'on lui a données, ça c'est OK et même. Ce monsieur s'en vante sur les médias mainstream et n'est pas du tout inquiété pour ces méthodes qui trahissent et qui violent le code du journalisme, la déclaration des droits et devoirs du journaliste. Donc il y a vraiment un deux poids, deux mesures
C'est de l'info volée.
qui est insupportable, qui est compliqué à vivre. C'est de
Je
l'info
comprends.
volée, mais c'est de l'info qui est déformée en plus d'être volée.
Ouais.
Ce Sami Zaïbi n'a même pas été capable en 2 mois de comprendre que je n'étais pas, par exemple, la fondatrice d'ID News, d'Agora TV, pardon. La conclusion, c'est que j'avais fondé Agora TV. Au
Ah
bout de
oui,
deux
non, en
mois, il
plus,
ne
c'est
s'en
des gens
était même
de
pas
c'est...
rendu compte
Ouais, en plus, ils
que ce
bossent
n'était pas
pas.
vrai.
Ouais, non, mais en plus, ils bossent pas. Et ça, et dans tous les mainstream, hein, les journalistes actuellement ne bossent pas. Je veux dire, c'est vraiment c'est vraiment, en plus, c'est du boulot de, c'est vraiment du boulot de tocard. Alors,
Ouais.
donc, en octobre, il y a
Donc, pour
eu,
revenir à cette affaire, en octobre, il y a eu le procès final, le procès pour juger si ça avait été diffamatoire ou pas de me traiter, de m'assimiler à Hitler, de dire que j'avais fait des dérives antisémites, de m'assimiler à quelqu'un de violent, de menaçant, parce que les articles sont truffés d'amalgames, hein. Sur ces 3 articles dont il est question, des articles de fin 2021, je suis par exemple citée 30 fois dans un article qui fait 5 pages et qui parle de Hitler, qui parle de l'antisémitisme, qui parle de violence, de théories du complot qui sont assimilées à l'antisémitisme. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode chez ces journalistes.
On reviendra sur cette histoire d'antisémitisme parce que moi
Ouais.
je me fais à peu près traiter sur les réseaux d'antisémites à peu près une fois par jour. D'ailleurs, en général, je réponds aux
Ah
gens,
bon?
écoutez, je suis ouais. D'ailleurs, je réponds aux gens en principe, je leur dis écoutez, ça me fait plaisir que vous me traitiez d'antisémite parce que aujourd'hui personne encore m'avait traité d'antisémite et j'allais bientôt aller me coucher et j'aurais quand même été très triste de me coucher sans avoir été traité d'antisémite.
Bon.
Mais bon,
Moi,
non
c'est
parce
pas
que
forcément quelque chose après lequel je cours. Disons que j'ai
non, mais c'est
assez
pas la
de
question de courir
problèmes
après, c'est que ça devient tellement ridicule.
de calomnie
Je veux
que
dire, t'es
voilà.
pas aujourd'hui, je veux dire, t'es pas à genoux devant Netanyahou, t'es antisémite, quoi. Je veux dire, enfin, c'est en train de
Non,
devenir.
c'est même pas. Alors effectivement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que la plupart du temps c'est ça. Là, c'est même pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a eu trois justifications pour ces 2 journalistes. C'est le fait que j'ai publié une gazette qui s'appelle L'hymne à la vie, qui parle de l'arnaque du Covid et à la fin de laquelle on trouve en toute petite patte de mouche un conseil de lecture qui s'appelle Les protocoles des sages de Sion que je n'avais même pas remarqué. Donc ça, c'est facile à vérifier. Vous allez sur mon compte Twitter et vous allez vérifier ce document. Donc cela a permis à ces journalistes de prétendre que j'avais fait la promotion des protocoles des sages de Sion, donc je suis antisémite. La deuxième chose, c'est que j'ai évoqué plusieurs fois le nom de Rothschild. Et la troisième chose, c'est que j'ai relayé 2 témoignages de personnes juives qui avaient vécu la Shoah et qui comparaient les mesures liberticides et discriminatoires à ce qu'elles avaient connu avant la Shoah.
Ah
Voilà.
mais moi,
Voilà sur quoi se basent ces journalistes pour prétendre que je fais des dérives antisémites.
si tu veux, Chloé, j'ai été traité d'antisémite parce que une fois, il y avait eu de la grêle sur les vignobles de Bordeaux et t'avais tous les viticulteurs qui se sont mettent plein les poches à Bordeaux, les grands viticulteurs qui chouinaient parce que une partie de la récolte était perdue et ils demandaient des subventions et des indemnités. Et moi, je disais simplement, je trouve quand même que c'est pas très normal que Château Lafite Rothschild reçoive des subventions avec le fric qui se font. Bon, ça a suffi pour que je sois traité antisémite.
Ah voilà,
Donc, si
dès
tu
que
veux,
tu nommes le
c'est
nom de
ça.
Rothschild, c'est fini.
Donc, à un moment donné, malheureusement, c'est pas toi qui choisis d'être antisémite. C'est une
Effectivement.
étiquette qu'on te colle. Il y a quelqu'un qui disait, j'ai plus son nom maintenant en tête, mais il disait, l'antisémite, c'est pas celui qui aime pas les c'est celui que n'aime pas. Donc, si tu veux, à un moment donné, voilà quoi, se dire c'est.
Et c'est même pas le cas, c'est même pas le cas. Mais bon, je vais pas faire,
Ouais.
je vais pas refaire la plaidoirie. Mais je veux dire, j'ai eu des témoignages. Là, j'ai une amie qui a fait un courrier long comme le bras pour expliquer que bah, j'étais le contraire de quelqu'un de discriminant, de raciste, d'antisémite. Elle-même est juive. Hein. J'ai eu plusieurs témoins qui ont été refusés d'ailleurs d'apparaître, qui sont juifs et qui voulaient évidemment témoigner en ma faveur. C'est comme tu dis, c'est pas nous qui sommes antisémites, c'est pas toi qui décides en
C'est
fait.
pas toi qui décides, non. Alors,
Non.
justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se sont passés les débats, comment se sont déroulées les audiences en octobre.
Alors ça n'est Pas tout à fait ce qu'on peut appeler un débat. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'avocat parce que ben, ma dernière avocate m'avait lâchée juste avant. Ça fait partie des moments qui ont été un petit peu difficiles cette année. Et donc j'ai assuré ma plaidoirie toute seule. Le procès a duré 5 heures. J'avais face à moi trois avocats, deux prévenus, donc les deux journalistes qui étaient sur le banc des accusés, et un juge qui au départ était plutôt sec et qui s'est radouci au fil de la plaidoirie, au fil du procès qui a duré 5 heures. 5 heures avec des pauses et une salle qui était plutôt petite et qui ne permettait pas de faire entrer toutes les personnes qui sont venues pour me soutenir, en sachant que des étudiants en droit ont été mystérieusement, miraculeusement invités à assister au procès, donc des gens, des jeunes aspirants avocats qui ont rempli la moitié des rangs en fait dans le public. Et ce qui a empêché en fait toutes les personnes qui voulaient me soutenir d'entrer dans la salle.
Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer.
J'avais, voilà, exactement, parce que ces étudiants en droit ont rempli l'essentiel des places disponibles. Alors j'étais munie de tous mes classeurs, de mes 81 pièces que j'avais répertoriées les jours avant, avec toutes les preuves pour bien faire comprendre que l'antisémitisme et moi, ça fait au moins deux. Mais le juge n'en a eu que faire, il ne les a pas acceptés. Par contre, il a accepté que les trois avocats des deux plaignants, des deux, pardon, lapsus. C'est vrai que dans ce genre de cas, on a tellement eu une inversion des rôles que j'ai tendance à faire ce genre de lapsus. Les trois avocats ont pu s'étaler en long, en large, en travers, en demandant l'acquittement dans un premier temps, parce que au début d'une audience, alors c'est quelque chose que j'ai découvert, il y a des questions qui s'appellent des questions préjudicielles, qui sont des questions sur lesquelles on peut revenir pour demander des choses que le juge a déjà refusées. Mais on peut revenir avec, donc ces avocats sont revenus avec cette idée d'être acquittés sans faire de procès et enfin, qu'ils puissent montrer des pièces qui sortaient de ce dossier pour soi-disant prouver la bonne foi de leur client. Donc, c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on produise le jugement de mon licenciement et d'autres éléments télévisuels. Le juge les a refusés et on a enchaîné. Il y a eu des questions, beaucoup de questions qui ont été posées aux prévenus, y compris des questions que moi j'ai posées aux prévenus. Mais le juge semblait un petit peu agacé, ne m'a pas laissé vraiment le champ pour développer mes questions. J'ai posé plein de questions, par exemple sur les menaces que m'avait prononcées Serge Michel quand nous étions c'était un entretien qu'on avait eu en octobre 2020, dans lequel il m'avait dit que si je n'arrêtais pas de soutenir Dieudonné, ou si je ne montrais pas une distance officielle avec Dieudonné, il m'arriverait les mêmes choses qu'à lui. C'est quand même une menace qui est significative. Il n'y allait pas, ça n'était pas vraiment un conseil, c'était vraiment une mise en garde. J'en ai parlé, j'ai demandé à Serge Michel s'il connaissait mes valeurs, s'il connaissait mon parcours, s'il savait que je m'étais présentée en 2018 au Grand Conseil à Genève, le Parlement genevois, sous une liste citoyenne et toutes les valeurs qui figuraient dans notre programme, à savoir un souci de respect de tous les humains, de ne pas faire de discrimination, d'accepter, enfin bon, c'est nos valeurs intrinsèques, hein. C'est mes valeurs depuis toujours, de considérer chaque être humain comme un égal. Et il n'avait pas connaissance, ce grand monsieur qui connaît toute ma vie, prétend-il, de mon parcours et de mon passé avec cette liste citoyenne. J'ai posé d'autres questions, notamment à Grégoire Barbet, qui a dit au juge comme argument, oui, mais vous savez, elle a fait une interview qui a duré des heures avec Dieudonné, donc en parlant de moi, avec un gilet jaune floqué d'un ananas sur le gilet jaune. Et là, j'ai posé la question à Grégoire Barbet, est-ce que vous considérez que 11 minutes, c'est des heures? Parce qu'en fait, il avait simplement confondu une interview que j'avais faite en mai 2019 avec un gilet jaune, avec l'ananas chez Dieudonné, qu'il m'avait prêté pour l'occasion, avec une interview que j'avais faite en 2021, toujours avec Dieudo, mais cette fois sans gilet jaune et sans ananas. Donc il n'avait même pas la présence d'esprit de connaître ce sur quoi j'étais accusée, ce sur quoi il m'accusait.
Et puis en plus,
Et
c'est,
en
pardon, mais
plus, avoir
c'est
un
une
ananas
justice.
sur un gilet jaune,
Non, mais c'est une justice de cour d'école. Enfin,
complètement.
c'est une justice de bac à sable à
On
ce niveau-là.
est au bac à sable,
On est au
c'est ce que
bac à
je voulais
sable là.
dire,
Ça, c'est
complètement.
elle m'a donné un coup de pelle, quoi. Je veux dire, c'est vraiment de la.
Exactement. Ça montre la hauteur de leurs arguments, entre guillemets. Ça montre qu'ils n'avaient rien à se mettre sous la dent et rien de sérieux. Mais malgré cela, ça a permis, ça a suffi pour me condamner finalement, pour les acquitter
Et
et me condamner à payer leurs frais d'avocat.
voilà,
C'est ce
ce
que
qui
j'ai
implique que
appris
tu
le
vas devoir
6
payer
novembre.
leurs frais d'avocat. Est-ce que tu comptes poursuivre la procédure? Est-ce qu'il y a des possibilités d'appel? Est-ce que tu comptes exploiter ces possibilités? Est-ce que tu en as les moyens? Est-ce que tu vas le
Alors,
faire?
la première chose, c'est que je n'ai plus de revenus depuis 5 mois, que je n'ai pas de travail et que je n'ai pas d'avocat. Alors, je n'ai pas les moyens, je n'ai clairement pas les moyens de faire appel. Donc, a priori, je ne ferai pas appel. Et je n'ai pas non plus les moyens de passer mon temps, mon énergie à me défendre contre des gens qui veulent me nuire. J'ai vraiment autre chose à faire, il me semble, de mes journées, que de me défendre contre ces gens qui mentent à mon sujet depuis 4 ans.
Surtout que la
Et
justice.
mon travail de journaliste indépendante, d'information sur mes 11 réseaux, pour moi est plus importante que de me ruiner et de me miner le moral, face à un système judiciaire qui, de toute façon, m'a condamné d'avance. Donc, je
Ouais, c'est
pense
ça.
que je vais me concentrer sur ce qui est utile et laisser tomber les bagarres de cour de récré, quoi. Exactement ce que tu disais avant.
Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est. Ça peut se comprendre, hein, ça peut s'entendre. Moi, je connais un peu la justice genevoise, et de toute façon, je peux parfaitement, et y compris la justice suisse. Bon, quand on a vu que Soral avait été a été condamné à de la tôle, je veux dire,
Pour avoir 10 grosses lesbiennes,
pour avoir
ouais.
10 grosses lesbiennes. Attends, si moi j'avais mis en tôle tous les gens qui m'ont traité de pédé quand j'étais môme à l'école, mon Dieu, enfin je veux dire c'est juste, non c'est n'importe quoi. C'était clairement c'est juste n'importe quoi et il n'y a rien d'attendre de cette justice.
C'est vraiment La Fontaine n'a jamais eu aussi raison qu'en ce moment, hein, que
Que
vous
vous soyez
soyez
puissant, et oui c'est ça,
puissant ou
puissant,
misérable, les
misérable,
jugements de cour vous feront blanc ou noir.
c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Oui, non, on est complètement dedans. Alors, bon,
Et attends,
donc,
je vais juste encore ajouter une
oui.
dernière chose que j'ai déjà dite plusieurs fois, mais je pense que c'est important de le rappeler. Grégoire Barbet, lui, par contre, a été condamné pour violence, contrainte, menace, insulte contre son ex-compagne en 2016. Et ça, les journaux qui ont rapporté le procès, hein, le lendemain, ou même le jour même, le 1er octobre, se sont bien gardés d'en parler. De la même façon, Serge Michel a menti en plein tribunal en prétendant pouvoir lire les petites lettres, les petites pattes de mouche dont je parlais avant. Concernant le conseil de lecture de l'hymne à la vie, à 2 mètres de moi, il a prétendu pouvoir lire des choses qui sont complètement illisibles à 10 centimètres. Mais le juge n'en a pas fait cas, n'en a pas tenu compte,
Il n'en a pas tenu
et
compte.
les médias n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé non plus de dernière chose qui est importante, c'est que j'ai quand même réussi à faire condamner la RTS qui nous a complètement effacés de leur programme durant la campagne électorale en juin 2024. Par l'AIEP, l'autorité indépendante d'examen des plaintes, dont les médias n'ont pas du tout parlé. Donc c'est vraiment de l'information sélectionnée, filtrée, amplifiée, orientée, pour me faire passer pour quelqu'un de méprisable au possible et d'infréquentable, afin que je pense que personne ne s'intéresse à mon travail, mais en même temps, en s'acharnant à ce point-là sur moi. Ils trahissent quand même une volonté de m'écarter et de faire en sorte que personne n'ait la curiosité de voir ce que je fais. Et je pense qu'au contraire, ça permet de réveiller un petit peu les gens qui doivent se dire au bout d'un moment, mais pourquoi autant de haine contre cette femme
Je pense que des gens, excuse-moi, je pense que des gens réveillés, il y en a. C'est-à-dire que si
Certes.
des gens qui sont venus te soutenir n'ont pas pu rentrer faute de place, c'est que il existe quand même des gens.
Ça, c'est sûr. Mais là, je te parle des gens qui croient ou qui suivent les médias en pensant qu'on leur dit la stricte vérité. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont quand même se dire qu'il y a un problème à parler autant de Chloé Frammery, qui n'a plus de travail. Qui est-ce que ça peut intéresser de savoir que elle a porté plainte en diffamation et que sa plainte a été déboutée comme si on en faisait une affaire d'État? Donc, s'ils s'acharnent à ce point-là, ils vont peut-être se dire au bout d'un moment, tiens, c'est bizarre quand même que ce soit le personnage central de ce qui se passe à Genève, quoi, de temps en temps.
Je suis assez
C'est
sceptique sur la capacité de réflexion
non?
des gens d'une manière générale.
Ouais, moi je reste optimiste, mais
Mais
peut-être j'ai tort.
oh non, je ne sais pas si tu as tort. L'avenir le dira. Tu as certainement une partie, partiellement tort et partiellement raison, et moi aussi. Mais ce que je voudrais savoir, donc maintenant, la page judiciaire, bon, bah, le résultat, on le connaît. La page judiciaire est en train de se tourner. Et.
Alors, pas encore, il faut que je paye quand même 11 400 francs par accusé, plus 1 540
Ouais,
francs
donc 25 000
pour les
balles.
frais de justice, plus ou moins, ouais.
25 000 francs de frais de justice, frais d'avocat et frais administratifs.
Ouais.
Tu prévois de faire comment?
Alors, en ce moment, depuis plusieurs années maintenant, je vis un jour après l'autre. J'ai des personnes qui m'ont fait des dons et qui me soutiennent. Pour mon travail, sur mon site, je rappelle que j'ai un site qui s'appelle chloéframerie.ch et que vous avez des onglets de soutien pour les personnes qui souhaitent m'aider.
On mettra un
Et
lien.
j'ai des amis qui peuvent peut-être me prêter de l'argent. Je
Crowdfunding.
sais pas encore. Oui, j'ai aussi quelqu'un qui, j'ai un ami qui monte une cagnotte qui pour l'instant ne fonctionne pas encore, mais qui a voilà
Tu ne manqueras
incessamment
pas
sous
de nous
peu.
donner le lien?
Absolument, je te donnerai le lien.
Ok, très bien. Et alors, pardon, je t'ai interrompu, tu voulais dire encore?
J'allais dire, je veux aussi remercier évidemment toutes les personnes qui m'aident depuis plusieurs années, qui m'ont encore aidé cette fois-ci, et aussi Étienne Chouard qui a publié un tweet récemment, dont j'ai eu connaissance aujourd'hui pour faire suivre ma petite vidéo sur le bilan, sur le verdict. Et qui demande aux personnes de m'aider. Donc, c'est dans ces moments-là, en fait, moi j'aime bien quand
Ça fait
même
du
ces
bien,
moments
hein, un
de
petit.
difficulté dans lesquels je vois vraiment qui est mon ami et qui s'en fout. Donc, ça permet de faire le tri encore une fois et de
Oui,
voir qu'il y a vraiment des belles personnes.
je l'ai retweeté la vidéo aussi, et puis
Merci, Jacques.
et c'est d'ailleurs en voyant la vidéo que j'ai pris la décision de solliciter cet entretien. Alors, maintenant que cette page est en train de se tourner, aussi douloureuse soit-elle, quel est un peu le bilan? Donc, tu as été extrêmement impliqué, tu as pris, et c'est ce que moi je respecte chez toi, c'est-à-dire que bon, on peut avoir des désaccords, de points de vue, de divergences de points de vue, on n'est pas du même bord politique, tout ça, tout le monde le sait, mais moi, il y a quelque chose que je trouve infiniment respectable chez toi, c'est précisément les risques que tu as pris. Tu aurais pu t'en foutre, tu aurais pu rester très confortablement installé au chaud avec à ton poste à Genève, et tu as pris des risques, et ça se respecte, et j'ai même envie de dire que ça s'admire. Mais au bout de, s'il fallait tirer un bilan, j'ai plein de questions encore à te poser parce que j'aimerais t'entendre aussi sur la marche du monde un petit peu. Mais
Ouais.
si te fallait tirer un bilan de ces 4 ans de militantisme où tu as été, et ça aussi, ça se respecte, l'une des personnes qui a fait face à un régime extrêmement violent, un régime vecteur de souffrance, un régime qui a vraiment mis la misère au sein de la population. Il faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui reste de ça? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu ferais autrement? Est-ce que finalement c'était pas trop cher payé? Voilà, j'aimerais un peu avoir ton sentiment général là-dessus.
Alors, je regrette pas mon investissement, je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette pas d'avoir fait ces recherches et de les avoir exposées au monde. Ah non, pas du tout. On était et on est toujours dans une situation d'extrême urgence pour la sauvegarde de l'humanité et de l'intégrité et de la liberté du monde entier, des peuples du monde entier. Et je me suis pas posé la question, en fait. Je me suis pas dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Pour moi, il y avait une situation d'urgence. Il fallait que la vérité soit dite et soit analysée et soit transmise. Et non, évidemment, je regrette absolument rien de tout ça. Ce que je regrette peut-être un peu, c'est d'avoir fait trop confiance parfois, de ne pas avoir écouté assez mon intuition face aux personnes qui me promettaient loyauté, amitié, respect. Et comme Sami Zaïbi qui nous a infiltrés, qui nous a menti, qui nous a trahis, j'ai un peu trop négligé ma petite voix intérieure. C'est la seule chose que je dirais regretter aujourd'hui. Et en même temps, comme disait Mandela, soit on gagne, soit on apprend. Et j'ai appris. Et j'ai beaucoup appris durant ces 4 ans. Il faut savoir que ça fait 12 ans que je dénonce tout ça
Est-ce que tu as
et
aussi
que,
beaucoup gagné?
mais appris, gagner, pour moi, c'est des synonymes. Gagner
Est-ce qu'il y a des victoires?
ah, mais énormément, mais rien que de dormir bien la nuit, de ne pas avoir vendu mon âme, de pouvoir me regarder dans la glace, de ne pas m'être laissé manipuler, injecter un produit dangereux, que j'ai pu, permettre à ma mère qui m'a remercié de ne pas se faire injecter ce produit sans pour autant la forcer ni l'intimider ni la menacer ni quoi que ce soit. C'est elle toute seule qui a pris sa décision, mais au moins je lui ai donné les clés pour comprendre ce qui se passait, pour avoir permis à des personnes de ne pas sombrer. Ça, c'est ce qu'on m'a dit beaucoup. Grâce à toi, j'ai pu tenir le coup pendant ces années. D'avoir fait cette alliance avec Jean-Jacques Crèvecœur, avec Salim Naibi, avec Amélie Paul, avec Thierry Casasnovas et d'autres, Tal Chaler, durant ces émissions, l'info en question, libérer l'info, d'avoir permis de vraiment libérer cette info qui n'était pas montrée dans les médias mainstream et d'avoir cette alternative de sources et d'informations qui faisaient cruellement défaut à ce moment-là. Et aussi de donner de la force et aussi de permettre des fêtes, des rassemblements, des manifestations,
Il y a eu des belles rencontres.
des magnifiques rencontres, des gens que je n'aurais jamais rencontrés en temps normal. Commençons par nous deux.
Ben, par
Je
exemple.
ne t'aurais jamais rencontré, Jacques, s'il n'y avait pas eu toutes ces mesures, liberticides, souverainicides. J'ai voyagé comme jamais. Je n'ai jamais autant voyagé que depuis que c'est interdit. J'étais dans mes bouquins, j'étais dans mon ordinateur, je ne faisais que travailler pour mes cours, pour mes élèves depuis 16 ans. Je ne prenais que très rarement des vacances et je ne voyageais quasiment jamais. J'ai découvert la France, j'ai découvert la Suisse. Je me suis en fait libérée. Bizarrement, dans cette période de restriction de liberté, je me suis libérée et j'ai même rencontré l'amour grâce à tout ça. Depuis 1 an et demi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je partage tellement de choses, des valeurs, le sens de l'aventure, la sensibilité, quelqu'un que j'aurais de nouveau jamais rencontré sans tout ça. Donc non, non, beaucoup, beaucoup plus gagné que perdu finalement, sincèrement.
Bon, alors ça c'était. Alors justement, la manière dont évoluent les choses, ça c'est un peu la deuxième partie de l'entretien. Aujourd'hui, bon, on va dire que l'histoire ou notre histoire, en tout cas. Bon, je sais que tu étais syndicaliste avant, etc. Mais disons
Oui.
que ta grande histoire de militante. On va la faire commencer pour des raisons de convention. On va la faire commencer en 2020. On est aujourd'hui à la fin 2024. Entre-temps, il y a eu en 2020, il y a eu les mesures liberticides. Il y a eu une guerre en Europe. Il y a eu des choses quand même extrêmement, extrêmement dures qui se sont passées. Des choses qu'en 2019 on n'aurait jamais imaginées. En tout cas, pas moi.
Alors moi si.
Voilà, c'est peut-être la
Alors moi si je peux
différence.
te dire. Ouais.
Alors, justement, est-ce que aujourd'hui, en 2024, il y a des raisons de se réjouir, des raisons d'espérer? Est-ce qu'il y a eu Est-ce que malgré tout, les choses ont, on a réussi quand même à faire évoluer les choses dans le bon sens?
Selon moi, oui. En fait, je vais t'expliquer ce qui se passait pour moi en 2019, avant que tout ça éclate, et ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2019, je n'arrêtais pas de dire à mes proches, aux gens que je rencontrais, mais arrêtez de dormir, les gars, il y a quelque chose qui se passe. La création monétaire, les banques qui créent la monnaie, les mensonges médiatiques. L'esclavage moderne, l'esclavage consenti, votre rythme qui vous empêche de réfléchir et qui vous empêche d'être autonome. Nous sommes tous sous dépendance. Réveillez-vous, ça va pas durer. Il va se passer quelque chose. On va quelque part dans un événement qui va nous être si pas fatal, mais tragique. Et tout le monde de me rire au nez, de me dire, mais non, écoute, T'as un travail, de quoi tu te plains, qu'est-ce que tu vas chercher des poux à tous ces gens, qu'est-ce que tu vas nous inquiéter pour des broutilles, des choses qui ne nous concernent pas. Moi, je ne fais pas de politique. Et je leur disais, si tu ne fais pas de politique, la politique, elle s'occupera de toi. Si tu t'occupes pas de politique, elle s'en occupera. Elle s'occupera de toi. Et 2020 arrive et les restrictions inédites mondiales s'impose à la population du monde. Et là, enfin, les gens se réveillent. En tout cas, une partie des gens se réveillent. Et pour moi, c'est une victoire. Parce que ce que j'ai essayé de faire pendant des années a été extrêmement facilité par les restrictions et les décisions gouvernementales qu'on a subies. Donc pour moi, c'est un cadeau, dans un sens. Ça a permis de réveiller énormément de monde. Et des personnes qui se doutaient que ça n'allait pas ou qui n'avaient pas le temps auparavant de faire ces recherches qu'aujourd'hui elles ont faites. Et aujourd'hui, résultat des courses. Tous ces gens qui se sont réveillés pendant le Covid sont au courant qu'on nous a menti depuis longtemps, que les médias ne disent pas toujours la vérité, que le satanisme, et en particulier le pédosatanisme, existe, que tout ce que nous disait Claire Sévrac dans ses livres, est vrai que le climatisme est une idéologie qui vise à nous restreindre encore dans nos libertés, que la guerre sur le terrorisme également, que les guerres servent aussi à manipuler l'opinion et à asseoir un pouvoir, un contrôle, que l'OTAN n'est pas une force de défense, mais une force offensive, etc. Toutes ces vérités qui avaient du mal à percer aujourd'hui, elles sont connues des gens qui se sont donné la peine de faire leurs recherches et qui ont été choqués par ce qui s'est passé avec le Covid et qui ne veulent surtout pas que ça recommence. Donc pour moi, c'est une victoire. Pour moi, déjà, ça, c'est encourageant. Alors après ça, après 4 ans, tous ces gens qui se sont réveillés, chez nous, ça représente au moins 40% de la population en Suisse. En tout cas, je me base sur les résultats de la votation sur la loi Covid. 40%, c'est pas rien. Et
Ouais,
avec
je sens.
l'élection de Trump, on va y arriver. Enfin, je te laisse peut-être commenter d'ici là, depuis
Non, non,
ce que je viens de
non, je
dire.
suis. Je trouve que ce que tu dis est intéressant. Notamment, effectivement, je suis assez sensible et touché lorsque tu mentionnes Claire Sévrac, puisque moi, avant 2020, c'était l'une des rares personnes que j'écoutais. Et c'est vrai que je vais être franc, hein,
Dis-moi.
je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai que je me dis, il y a certainement des trucs sur lesquels elle exagère.
Or.
Or aujourd'hui, il apparaît que bah, pas tant que ça en fait. Donc,
Mais c'est ça.
moi-même, j'étais intéressé parce que bon, moi, j'ai pas besoin d'être en accord complet avec quelqu'un pour le respecter et surtout pour l'écouter. Moi, tout m'intéresse et la preuve, c'est que j'arrive même à écouter LCI de temps en temps. Donc, c'est dire. Bon, en général, c'est pour les critiquer, mais
Je suis comme toi.
d'une manière générale, je suis quand même quelqu'un qui écoute. Et Claire Sévrac, c'est vrai que c'est quelqu'un que je disais, bon, il y a des trucs, c'est non, c'est probablement
C'est
pas
trop gros.
possible. Elle va trop loin. Elle est enfermée dans sa bulle, dans son truc. Il y a certainement un fond de vérité, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué de m'intéresser à elle et à ce qu'elle disait. Mais il y a quand même des choses qui... Et là, on est en train de s'apercevoir, je vais pas développer les détails maintenant parce qu'on a trop peu de temps et j'aimerais t'entendre sur beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai trouvé, voilà, je suis obligé de constater que malheureusement c'était ces postulats qui étaient justes. Et donc aujourd'hui, alors il y a effectivement la victoire de Trump qui, à mon avis, même plus la défaite de la folie démocrate qui suscite un espoir. J'espère qu'elle en suscite pas trop et que surtout les espoirs suscités seront pas déçus. Quel est ton sentiment? Ça t'a fait plaisir de voir la tête des médias mainstream le 6 novembre?
Alors oui, en fait, étonnamment, ces médias n'ont pas été aussi virulents qu'en 2016,
Ils étaient préparés, hein.
lors du premier mandat de Trump. La propagande de haine qu'ils ont assénée pendant 8 ans contre quelqu'un qu'ils ont diabolisé au possible est beaucoup plus soft actuellement. Je les trouve beaucoup plus raisonnables dans leur façon de parler de lui. Et j'étais justement étonnée de voir
Raisonnable,
que...
bon, j'ai entendu il était fasciste, c'était Hitler,
Alors, depuis l'élection, moi, j'ai écouté l'Aimant Bleu, j'ai écouté la RTS, essentiellement des médias suisses. Effectivement, j'ai pas suivi de près les réactions des médias français, mais en Suisse, ils ont été plutôt modérés dans leur traitement de cette information. Et moi, je pense que c'est entre les deux candidats, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Enfin, quelqu'un qui annonce vouloir en finir avec la censure médiatique, avec les idéologies quelles qu'elles soient, que ce soit le climatisme, le transgenrisme et tout ce qui finit par isme.
Bon, ça a
Quelqu'un
pris
qui
des...
prend... Oui?
C'est allé tellement loin.
Je sais.
C'est ce qui... Moi, il y a vraiment un côté, ce qui moi me choque énormément. Je suis jamais choqué quand les gens ont des idées opposées ou quoi que ce soit. Ce qui me choque ici, c'est la déraison. C'est-à-dire qu'on a pris, voilà, on était vraiment dans la déraison. Et ce qui m'a
Dans
intéressé,
la
c'est
secte, je dirais même, le
il
sectarisme.
Il y a une forme sectaire, oui, ça c'est sûr, mais en plus il y a quelque chose, alors il y a des éléments sectaires, hein, comme une forme de fanatisme, mais plus que ça, je veux dire, c'est une folie, je veux dire, on en est à mutiler des
C'est ça,
adolescents, des
exactement.
gosses, je veux dire, attends, on est en train de mutiler soit chimiquement, soit physiquement des gosses, je veux dire, ça va vraiment très loin. Et ce qui, moi, m'a beaucoup interpellé, c'est la manière dont tout d'un coup les médias mainstream américains, certains des médias dont le New York Times, Washington Post, etc., ont fait une espèce de retour en arrière, comme ça, ils ont donné un énorme coup de frein. Hop, là, on s'arrête. On va traiter l'information autrement. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à long terme. Ça fait une semaine que Trump est élu et il peut se passer beaucoup de choses. Après, je trouve que la campagne a été extrêmement dure. Donc Trump a échappé à deux tentatives d'assassinat. Il a été traité de fasciste. Il a été traité d'Hitler. Il a été traité d'ordure. Les électeurs ont été traités d'ordure. Enfin bon, il y en a. Je veux dire, il y en a long comme le bras. On n'a pas assez de temps pour toutes les énumérer, mais je trouve
Mais
que
ça n'a
ça a
pas
été.
suffi pour le
Alors.
désavouer aux yeux des grands électeurs et de la population.
Ben ouais, alors ça c'est. Je
Ces
pense que
méthodes ne fonctionnent plus.
plus que le. Voilà, alors ça c'est intéressant. Et là-dessus j'aimerais t'entendre parce que je pense que ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est pas tellement Trump lui-même, mais c'est que
C'est les
c'est
méthodes.
le désaveu de ces gens en fait, le
Absolument.
désaveu infligé par la population.
En fait, ils se rendent compte, autant les médias que les gouvernements, hein, il y a un rapport Edelman qui en parlait, là je l'avais détaillé en 2022, ces gens-là, ces autorités se rendent compte qu'ils ont de moins en moins de crédit aux yeux de la population, qu'à force d'asséner des idéologies et des mensonges et des calomnies et des obligations de pensée justes, comme eux le pensent, comme eux l'imposent, ne marchent plus autant qu'avant, que maintenant les gens peuvent s'informer autrement, que ils ont été trop loin, comme tu le disais avant. À force d'être dans l'excès, tant va la,
La
comment,
cruchalot,
ça va dire,
etc.
la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse.
Ouais.
Et là, le problème, c'est qu'une fois que c'est cassé, eh bien, ça ne se répare pas. On peut essayer de le recoller, mais ça reste brisé. Et la confiance, elle est comme la cruche. Une fois qu'elle est cassée, c'est trop tard. Et comment se rattraper après ça? Je pense que c'est eux qui ont des regrets par rapport à la façon dont ils ont pris les gens pour des cons et la façon dont ils les ont manipulés. Maintenant, comment faire pour garder la tête haute face aux mensonges d'une part et aux crimes et aux assassinats d'autre part, avec ces injections notamment? Comment faire pour se racheter aux yeux d'un peuple qui a été mutilé, qui a été assassiné, qui a été trahi? Je pense que là, ils vont juste retourner leur veste pour ceux qui sont encore sur place, et les autres vont se mettre dans des grottes en attendant que ça passe.
Le fait que Robert Kennedy Jr.
J'allais y venir.
joue un rôle.
J'allais y venir justement. Moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que Bobby Kennedy, pour les intimes, Robert F. Kennedy, le neveu de JFK, que j'ai vu lors d'une manifestation en novembre 21, octobre ou novembre 2021 à Berne. On était juste à côté, on a pris la parole au même moment, plus ou moins. Et je l'ai vu à côté de moi. J'avais voulu faire une photo, mais je me suis dit non, mais je ne vais pas l'embêter. Et voilà, c'est peut-être le seul regret que j'ai. J'ai senti quelqu'un de sincèrement humain et de 100% intègre. Alors, c'est une vibration, hein, c'est difficile de l'expliquer scientifiquement, mais j'ai senti que j'avais affaire à quelqu'un qui n'était pas un manipulateur. Et le fait que Trump le charge de rétablir la santé, de make America healthy again, comme il l'a dit, me donne beaucoup d'espoir. Il a écrit plusieurs livres, Bobby Kennedy, notamment sur le rôle de Fauci dans cette imposture du Covid et précédemment dans l'imposture du sida, du VIH. Et moi, j'ai tout à fait confiance, en tout cas, dans sa vision des dégâts du lobby pharmaceutique sur la santé des gens. Et pour moi, c'est très bon signe qu'il l'ait pris dans son équipe.
Je crois que alors pour moi, c'est un gage d'espoir. C'est-à-dire que là, pour le coup, parce que si Bobby Kennedy commence à tirer la ficelle de la pelote, quand on va voir la pelote se dérouler, ça va être quelque chose d'énorme. Parce que là, la santé, enfin, le peuple américain est en train de crever. Je veux dire, ils sont en train
Oui.
entre l'obésité, les
Les maladies
addictions,
chroniques, l'autisme.
l'autisme, je crois qu'ils en sont à, j'ai justement vu un bout d'interview de Kennedy aujourd'hui. Je crois qu'ils en sont à 72 vaccins, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de fou.
Ah ouais, c'est pire que chez nous.
Ah ouais, non, c'est quelque chose c'est quelque chose. Alors moi, je suis pas spécialiste en matière de santé. Et toi, tout à l'heure, tu disais, j'ai senti des vibrations, ça peut pas s'expliquer scientifiquement. Si tu savais que je commence à en avoir marre des faux scientifiques en ce moment, qui te parlent de la science, comme ma grand-mère parlait de la
Comme
Sainte
d'une
Vierge.
religion.
C'est ça,
Ouais, c'est ça,
exactement.
totalement.
Donc, sauf que pour la Sainte Vierge, la Sainte Vierge, ça se justifiait, c'est-à-dire que c'est une affaire de croyance. Et là, ils nous ont fait allègrement passer de la croyance pour de la science. Donc,
Exactement, il y a un amalgame total.
il y a un amalgame absolument total. Donc, voilà. Aujourd'hui, alors je suis pas, mais disons maintenant ceux qui parlent de science, je fais attention. Alors donc ça c'est quand même un immense espoir. L'arrivée de, tu te rends compte un peu si cette, moi pour moi c'est presque un rêve. Si cette pelote-là se
Se
déroule
déroule.
comme elle doit se dérouler, là c'est les labos en Ukraine qui tombent, c'est plein de choses, quoi. Je veux
C'est
dire,
tous les
c'est
C'est une succession de dominos qui tombe et qui ne permettra plus ce genre d'asservissement mondial. Plus jamais. Parce que le nerf pharmaceutique, le nerf médical, c'est ce qui tient, c'est ce qui permet à ces autorités d'avoir une sorte de crédibilité pour la santé des gens. Mais si ça tombe, c'est fini. Ils peuvent plus rien nous imposer. C'est mon avis en tout cas.
Oui, en espérant que, et ça sera une de mes dernières questions, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque? Parce que bon, des labos pharmaceutiques, je sais qu'ils n'ont pas bonne presse aujourd'hui et ça peut se comprendre, mais les labos pharmaceutiques, on en a quand même besoin parce qu'on a quand même besoin de se soigner, on a quand même besoin de médicaments. Donc il y a quand même un risque parce qu'il va y avoir quand même la plupart des labos pharmaceutiques ont tellement exagéré qu'il va y avoir comment dirais-je, un discrédit qui va être, parce qu'ils sont tous mouillés.
Mais oui. Ah oui, mais le discrédit est déjà en marche, hein,
Ben, pas pour tout le
sans faire
monde.
de mauvais jeu de mots.
Pas pour tout le monde. C'est-à-dire que il est oui, le discrédit, il existe effectivement chez des gens comme toi et moi, mais qui étaient déjà à la base méfiant sur ces choses-là, si tu veux. C'est-à-dire que, mais bon, ça pourrait révolutionner. J'aime pas beaucoup.
Ça risque de révolutionner, mais. Est-ce que depuis 2020, on n'a pas une vie qui a été révolutionnée avec toute cette mise à distance, tout ce qui est télétravail, tout ce qui est sans contact, tout ce qui est automatisation, robotisation, digitalisation du monde? Moi, je trouve que la révolution a déjà eu lieu dans un sens. Pourquoi ne pas la faire dans l'autre sens? Revenir au naturel, revenir aux sources, aux bases de la vie, à la compréhension de ce que c'est que le vivant. À essayer de se guérir plutôt que de se soigner, c'est-à-dire à chercher les causes et non pas à masquer les symptômes. Est-ce que c'est pas justement une philosophie qu'il serait bon de réintégrer dans nos modèles de pensée, de réfléchir à pourquoi ça arrive et pas comment le masquer et
Est-ce que notre génération est capable
le couvrir?
de faire ça, justement, de changer complètement? Parce que là, ce que tu es en train de présenter, c'est une
Mutation?
une mutation de mentalité. Ouais, c'est vraiment, est-ce que nous, notre génération, on sait faire ça?
Moi, j'en suis sûre. Tu sais, l'être humain, il est adaptable. Il a cette caractéristique qui s'adapte facilement à beaucoup de choses, et étonnamment. Et à mon grand désarroi durant les années Covid, d'ailleurs, s'adapter à devoir porter un bâillon qui nous empêche de respirer et trouver ça normal, ça m'a paru très bizarre. S'adapter à ne pas sortir de chez soi sauf à se signer des auto-attestations, rester confiné, ne pas faire de sport pour rester en santé, ne pas se serrer dans les bras pour se protéger d'un virus, tout ça m'a paru très bizarre et pourtant les gens ont accepté. L'être humain s'adapte et d'autant plus quand il a à y gagner, quand il a à y gagner en santé, en joie, en épanouissement, en liberté, tu penses pas?
Écoute, je sais pas. Moi, j'écoute. T'es certainement beaucoup plus aguerri intellectuellement que moi pour analyser ce genre de
Ah non,
choses.
je pense pas, mais je suis
Mais
optimiste, disons.
moi, si tu veux, j'ai été traumatisé par tout ce truc comme beaucoup de gens, et j'ai surtout été traumatisé par l'attitude des gens. C'est-à-dire que bon, moi,
Ouais, en
j'ai
effet.
absolument refusé catégoriquement de porter un masque à l'extérieur et même à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je disais aux gens, s'il faut me mettre un masque, j'irai pas. Voilà, c'est tout. Moi, on ne me masque pas. Mais
Voilà.
je me souviens quand je prenais les transports en commun, des agressions physiques parce que j'avais pas de masque, des
Ah oui, ça a
insultes,
été dur, ça a
des
été dur.
trucs, mais totalement. Puis moi, je disais aux gens, une fois, j'ai une dame qui m'a frappé. Je lui dis, mais
Ah,
vous imaginez si
mince.
moi je vous frappe? C'est la guerre civile. C'est
Ouais,
la guerre civile. Et
c'est ça.
donc, cette dame qui m'a frappé, je lui dis, mais voilà, moi, je suis corpulent, moi. Si je vous frappe, mais vous n'existez plus. Tu lui
Imaginez
as
un
dit
peu.
ça?
Mais oui, je lui dis, pourquoi vous faites ça? Et j'espère que
Et elle a
vous allez.
répondu quoi?
Elle m'a dit, j'espère que vous allez crever. Enfin bon, alors
Oui, les gens étaient hystériques. Les gens,
je
ils sont
dis,
devenus
alors je dis,
hystériques.
alors moi j'essayais d'être, j'ai dit, mais je vous rassure, oui, je vais crever, ça va m'arriver.
Ça va
J'espère
m'arriver, et à vous aussi d'ailleurs.
le plus tard possible, et il se peut que ça vous arrive à vous aussi. Donc je dis, vous savez, mais je dis, mais ne soyez pas agressif comme ça, parce que si moi je réponds. Ou quand je parle d'un moi général, mais si
Ouais.
on répond aux agressions, mais c'est fini, c'est la guerre totale, c'est l'effusion de sang, c'est on s'entretue. Je veux dire,
Exactement.
j'ai vraiment j'ai assisté personnellement à une espèce de pause de la raison.
Complètement, les cerveaux étaient sur off.
Les cerveaux étaient vraiment
Et
sur pause.
depuis, sur pause et même sur off, parce qu'aujourd'hui, même on le voit, hein, parmi toutes les personnes qui ont suivi docilement toutes ces mesures et qui ont fait leurs quatre injections, trois ou quatre injections, j'ai l'impression qu'ils sont plus là. Hein. Ils sont plus tout là. Il y a un problème, il y a un truc dans le cerveau qui a disjoncté. Le sens de la logique n'existe plus chez ces gens-là. Tout est possible et son contraire. Enfin, il n'y a plus de sens commun. Le bon sens est parti avec la liberté à ce moment-là. Et on voit bien la différence. Moi, je trouve, en tout cas, je la constate assez régulièrement entre les gens qui ont résisté à toutes ces mesures absurdes et à l'injection de ces trucs qui n'avaient pas été testés et qui ont fait beaucoup de dégâts. Et les gens qui ont vraiment tout fait comme on leur a dit. Il y a vraiment deux mondes. Ces gens-là, non seulement je les trouve éteints, mais je les trouve incapables de raisonner, de mener un raisonnement logique, en fait.
Chloé, moi j'ai une question sur laquelle j'aimerais ton analyse.
Oui?
Comment ça se fait? Alors, t'as peut-être pas d'analyse, je sais pas, mais moi je me suis
Dis-moi.
rendu compte que les meilleurs suiveurs, c'était les gens qui avaient reçu une éducation supérieure, les universitaires, les gens comme ça. Alors que souvent, les gens simples, c'était plus facile de trouver finalement je veux dire quelqu'un de. Alors, attention, je veux pas qu'on croie que j'ai du mépris pour personne, bien au contraire. Mais j'ai trouvé beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus d'écho auprès de gens qui n'avaient pas de bagage justement prétendument intellectuel ou universitaire ou quoi que ce soit, des gens manuels par exemple, et à l'inverse dans les milieux universitaires, y compris les milieux scientifiques justement, ingénieurs, juristes, j'ai trouvé des gens mais complètement suiveurs de tout ce processus. Toi, tu as
Alors,
une explication
pour
pour
moi, c'est
ça?
assez logique. Alors, bon, il faut quand même dire qu'il y a des exceptions. Par exemple, moi, j'ai fait
Non, mais
des
il y a
études
toujours des exceptions.
universitaires, 13 ans d'études, etc. Et pour autant, ça n'a pas suffi à me faire devenir quelqu'un qui suit aveuglément les consignes de l'autorité. Ce qui se passe pour les personnes qui ont fait des cursus longs et, si possible, intellectuels et sans contact avec le réel, c'est qu'ils ont été bercés de théories, de protocoles et ils ont été habitués à obéir à l'autorité, à faire ce qu'on leur dit, à être contrôlés avec les épreuves, les contrôles qu'on a après chaque année d'études. Pour pouvoir progresser dans leur cursus, ils ont dû se conformer, ils ont dû
Oui.
répéter, restituer tout ce qu'on leur a dit d'apprendre, sans forcément le questionner, sans forcément y apporter une contradiction. Et plus ces gens-là ont vécu ces années de conformisation, je sais pas si ça se dit, de mise en conformité avec ce qu'on attend d'eux, et plus ces gens-là ont répondu loyalement à l'autorité suprême qui est le gouvernement et l'autorité secondaire qui est les médias. Parce qu'ils sont habitués à le faire et parce que leur réussite a dépendu de leur allégeance à ces pouvoirs-là et à ces autorités-là. A contrario, quelqu'un qui n'a pas été formaté dans ce modèle de fonctionnement, arrive beaucoup plus facilement à garder son indépendance, non seulement donc parce qu'il n'a pas fait toutes ses études de formatage, mais aussi parce que les gens qui n'ont pas fait d'études ou pas beaucoup fait d'études supérieures sont ont des activités qui sont beaucoup plus ancrées dans le réel, dans le contact à l'autre. Je pense par exemple aux serveurs, aux cuisiniers, aux vendeurs, aux personnes, aux plombiers, à tous ceux qui sont sur le terrain, aux gens du bâtiment, qui travaillent avec des choses réelles et dans le contact humain. Donc ne sont pas dans les théories, ne sont pas dans les protocoles, ne sont pas déconnectés de ce qui se passe autour d'eux.
Ils
Donc
ont
pour
les
moi, il
deux
y a
pieds
les
par
deux raisons
terre.
principales. Ils ont les deux pieds par terre, ils sont en contact avec des vrais gens, avec des vrais problèmes, avec de la matière, avec des choses qui ne sont pas théoriques, mais plutôt pratiques. Et donc, ils ont un sens de la réalité et de la logique qui est beaucoup plus pragmatique. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique, en fait. Et c'est aussi des gens, en tout cas pour avoir été prof et pour être toujours prof, j'ai bien vu la différence entre les bons élèves, entre guillemets, et les mauvais élèves, entre guillemets. C'est-à-dire que les soi-disant mauvais élèves, ça n'est pas du tout les enfants les moins intelligents. Au contraire, c'est souvent le contraire. C'est souvent les enfants les plus intelligents qui sont le moins conformes à ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire qu'ils restent indépendants, qui ne supportent pas qu'on leur dicte une conduite, qui ne supportent pas de rester assis 8 heures par jour sur une chaise en entendant le prof leur dire ce qu'il faut apprendre par cœur. Et c'est des gens qui ont justement gardé leur indépendance d'esprit et qui veulent du sens dans leur vie. Et c'est ceux-là qui seront plus à même d'évaluer avec le bon sens ce qui leur arrive. Donc pour moi, c'est tout ce qu'il y a de plus logique, ce qui s'est passé pendant le Covid, avec les gens qui sont vraiment ancrés et connectés, qui ont compris ce qui se passe, et puis les autres qui sont dans leur fantasme, dans l'allégeance à l'autorité et dans leur théorie.
Écoute, moi, voilà, je peux dire qu'une chose, c'est que cette explication me convainc totalement. Je dirais aussi que je suis très touché par ce que tu as dit sur les mauvais élèves. C'est la première fois
Pour moi,
que
c'est une évidence, je
écoute,
t'assure.
pour moi qui étais un assez mauvais élève tout au long de ma scolarité, ça me fait plaisir, ça me touche et
C'est tout à ton honneur.
je pense qu'en tout cas c'est une belle fin pour cet entretien. Chloé, merci vraiment beaucoup d'avoir donné de ton temps.
Merci à toi, Jacques.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite professionnellement?
Que
Tu as des projets?
je trouve ma voie dans ma prochaine mission de vie. Là, figure-toi, juste pour la petite anecdote, et on finira par ça. J'ai rencontré tout à l'heure, juste avant de venir, quelqu'un qui a une école privée, je dirais pas où, et qui a envie de me rencontrer pour que peut-être on travaille ensemble. Et je ne crois plus au hasard. Donc voilà, c'est à suivre.
En tout cas, tu sais que sur ce blog, eh ben on t'apprécie et on te souhaite vraiment le meilleur.
Merci, c'est réciproque et bisous à tout le monde vraiment. Et merci encore à toi et à tous ceux qui tiennent bon pour qu'on récupère toutes nos libertés.
Merci Chloé.
Merci, Jacques.